Saint-Esprit, Jésus. Amen.
Amen. Amen. Waouh, c'est une responsabilité. Amen. C'est une responsabilité sur le plan spirituel que d'accompagner ses frères et ses sœurs et de les entourer d'une affection authentique, véritable et sincère, qui ne soit pas de l'empathie. Oui, mais de la compassion, comme je l'ai dit la fois dernière. Je pense que nous avons tous été à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous a dit ce matin et j'ai été saisi comme réconforté par la parole qui nous a été donnée par Angèle tout à l'heure lorsqu'elle a parlé de cette maison que nous formons avec le Seigneur, cette maison de Dieu, ce temple que nous sommes et qui accueille l'Esprit Saint, qui accueille le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes ensemble, nous formons une maison. Et c'est toute une révélation qui est venue à la suite de cette étude biblique que nous avons eue ce mercredi et qui a été un moment extrêmement édifiant. Et vraiment, je remercie mes frères et mes sœurs qui sont présents le mercredi soir. Nous excusons Alain et Aline qui n'étaient pas là et qui ne sont pas là, ce matin parce qu'ils sont malades. Et nous les remettons aussi au Seigneur. Mais je veux remercier vraiment ces frères et ces sœurs qui se préparent le mercredi. Parce que ce moment que nous avons ensemble de partage et d'échange, c'est pour l'édification commune. Et personne parmi nous n'a une ascendance ou le monopole de la connaissance de la parole. Nous l'avons ensemble et nous nous édifions mutuellement ensemble. Et moi, j'ai été particulièrement édifié ce mercredi. J'avais la charge de commenter les Écritures, mais je me suis laissé édifier également par mes frères et mes sœurs qui étaient présents. Et on ne sort pas, je dirais, de ces moments sans être édifié. Et je remercie Dieu que vous soyez sollicités et invités à préparer le culte, les rencontres, les moments d'adoration et de louange. On ne vient pas dans la maison de Dieu sans passer du temps avec lui. Et c'est l'exhortation et l'encouragement que je nous donne aux uns et aux autres. Nous ne serons véritablement nourris qu'à partir du moment, alors je crois qu'il y a une mauvaise sonorisation, je ne sais pas si on peut rectifier. Mais je vais reprendre. Je pense que je suis suffisamment audible et compréhensible. Je crois que c'est vraiment un moment important pour nous de nous préparer pour rencontrer Dieu. Amen. Je vais parler des tantes. Alors pas des tantes T-A-N-T-E-S et des oncles, hein, mais les soukottes. La tente d'assignation, qui est le lieu de rencontre entre nous et le Seigneur. Et le Seigneur veut que nous soyons comme invités à le rencontrer en permanence. C'est tout le sens de ces fêtes juives qui sont la préfiguration de l'avènement de Christ au milieu de nous. Vous savez qu'il existe plusieurs fêtes qui sont l'occasion juive, qui sont l'occasion pour le peuple juif de se rassembler, de se retrouver. Donc nous en parlions mercredi, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Pesha, les Soukkot. Et Rosh Hashanah, c'est une fête de l'éveil. Prendre conscience de l'existence de Dieu, prendre conscience également de notre péché. Yom Kippour, c'est la fête de l'expiation. Ça veut dire qu'il y a une préfiguration sur le plan spirituel. Mais c'est vrai, ils sont comme dans la méconnaissance de celui qui est venu se révéler, et pourtant ils avaient tout reçu, un héritage spirituel qui aujourd'hui se révèle à nous et à nos cœurs pour comprendre le sens et la signification de ce qui est contenu dans les Écritures. Je voudrais commencer par la lecture de Jean 7, je ne vais pas tout vous lire. En fait, il faudrait faire cette lecture de Jean 7 du verset 1 au verset 39. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'en fait, je veux m'attarder sur quelques aspects, quelques points qui me semblent être vraiment essentiels pour nous. Et j'aimerais que vous soyez touchés comme je l'ai été mercredi, mais aussi en préparant à nouveau ce message et ce passage qui s'est imposé à moi et qui devait vous être présenté. J'étais comme ému, comme profondément interpellé par cette lecture. Parce qu'il y a une révélation formidable qui nous est donnée par Dieu. Donc c'est bon de méditer les Écritures. Or, être nourri, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit, et comme cela nous a été dit, ce n'est pas avoir de préjugés sur celui qui va apporter sa parole et la parole de Dieu. Amen. Nous sommes d'accord ? Alors je vous lis ces quelques versets et puis nous irons faire un tour dans la lecture de Pierre. Jean chapitre 7 du verset 1 jusqu'au verset 13. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des tentes ou des soukottes ou des tabernacles ou de la tente d'assignation, il y a plusieurs traductions possibles qui sont données, était proche. La fête était proche. Ses frères lui dirent, mais pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret. S'il cherche à être connu, puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi. Tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester. Tandis que moi, il me déteste. Parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Je poursuis. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il ?» Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme bien. D'autres disaient, non, au contraire, il égare le peuple. Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Puis, plus loin, dans Jean, toujours chapitre 7, les détails vont être importants. Verset 37. Le dernier jour de la fête des Soukottes. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Jésus, debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Le dernier jour, le grand jour, Jésus se révéla à tout le peuple pour dire qu'il est l'eau vive. Et on va reprendre tous les aspects de ce texte qui est saisissant et de comprendre le sens de la fête des Soukkot, la fête du tabernacle, ce temple mobile en quelque sorte, cette fête était célébrée juste pour signifier au peuple qui magnifiait Dieu que le Seigneur les avait accompagnés à la sortie de l'Égypte et jamais le Seigneur ne les a abandonnés. Il habitait et résidait au milieu de nous. Et je vais vous lire ce texte de Pierre afin que nous comprenions le sens spirituel de ce qui va être décliné. Dans Pierre 2, verset 4, approchez-vous de Christ. Approchez-vous de Christ. Cela nous a été dit tout à l'heure, la pierre vivante. Parce que dans les fêtes de Soukkot, c'est un moment de sacrifice, c'est un rituel de sacrifice. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et à l'occasion des fêtes, la fête des Soukkot, c'était un moment de sacrifice et de réjouissance, pour proclamer le Dieu de la délivrance. Et nous sommes la nouvelle Soukkot, le temple dans lequel le Seigneur réside, et nous formons cette maison spirituelle. Amen. Amen. Vous comprenez toute cette dimension que nous allons appréhender maintenant. Alors, permettez-moi de revenir au contexte de la parole. Comme vous le savez, Jésus a été à Jérusalem, puis ensuite il est allé en Galilée. Et en Galilée, la parole, l'évangile a été bien accueilli par les Galiléens. Mais il rencontra très vite de l'hostilité parmi les pharisiens juifs, notamment à Bethesda. À Bethesda, où il accomplit un miracle extraordinaire, mais le jour du sabbat. Et ce qui fut reproché à celui qui avait été guéri le jour du sabbat, ce paralytique qui attendait pendant 38 ans sa guérison, ce qui lui fut reproché par les Juifs qui le voient porter son brancard. Mais qu'est-ce que tu fais donc là? Pourquoi ce brancard l'as-tu pris? Nous en sommes parfois là, mes frères et sœurs, parfois à reprocher aux autres ce que le Seigneur accomplit au travers d'eux. C'est vrai. Quelle violence de reprocher ce miracle le jour du sabbat pour un paralytique qui pendant 38 ans demandait et s'attendait à Dieu pour être guéri. Le fait qu'il porte le brancard était juste une violation des lois prescrites par les pharisiens. Et cette loi, selon eux, méritait que Jésus meure. Jésus devait mourir à l'instant où ce miracle avait été accompli et à l'instant où il demanda à ce paralytique de porter ce brancard, le fait de faire un effort, de servilité, de corvéabilité. Le jour du sabbat est une violation de la loi. C'est insupportable pour les pharisiens. Que Jésus se soit affranchi de lois sociales, parce qu'il mettait en péril la cohésion. Donc quelque part, les règles sous-jacentes qui faisaient en sorte que le peuple était uni avec des règles. Mais ils n'ont pas compris le sens. Quand Jésus dit à ce paralytique de porter son brancard, c'est afin qu'il réalise qu'il devait se décharger de son péché. Jésus lui fait porter le brancard afin qu'il réalise la délivrance qui est la sienne, mais la délivrance liée aussi à son péché. Et le Seigneur voulait qu'il soit totalement et complètement restauré, mais qu'il prenne conscience, qu'il s'éveille à l'instant où il fut guéri. Ce que Dieu lui a recommandé au travers de Jésus, va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Mais cela, les pharisiens ne pouvaient le comprendre, ne pouvaient le saisir spirituellement. Et à partir de ce miracle, les pharisiens se sont mis à le chasser et à pourchasser Jésus, c'est écrit dans les Écritures, pour le mettre à mort. Et Jésus sentait comme une oppression sur lui-même. Il ne pouvait donc aller se rendre en Judée pour cette fête qui rassemble tout le peuple juif, qui est une fête extraordinaire, c'est une célébration. Et une célébration qui est une véritable liesse. Quand Esdras a restauré la fête des Soukkot, il y eut une liesse de joie dans tout le pays d'Israël, parce qu'il fallait magnifier Dieu. Et Jésus, sans doute était-il lui aussi, il avait aussi envie de participer à cette fête, de célébrer avec ses frères, se réjouir avec ses frères, cette délivrance opérée par l'Éternel au milieu de son peuple. Mais il y avait la pression qui était là et la souffrance de Jésus de se savoir menacé. Si je vous dis là, à l'instant où je vous parle, comme je l'ai dit mercredi dernier, imaginez que l'on vous attende dehors et que l'on veuille régler vos comptes. Sortiriez-vous? Iriez-vous dehors? Aucun d'entre vous. Même si la paix du Seigneur est en vous, si l'on vous attend pour régler vos comptes, je ne crois pas que qui que ce soit parmi vous est en vie. Et vous me direz, frère, ce n'est pas le moment. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure pour moi de mourir. Non ? C'est vrai. Vous savez, on n'est pas tous très courageux, hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Mais Jésus a vécu ce moment. Vous comprenez pourquoi Jésus comprend aussi les peurs, les craintes et les tourments qui sont les vôtres. Car Jésus a dit, mais non, ce n'est pas l'heure non plus pour moi. Car il avait une mission à accomplir. Celui d'aller jusqu'au bout, de révéler au monde qu'il est le Fils de Dieu. Je trouve donc cela extrêmement saisissant. Amen. Amen. Alors, revenons au contexte des premiers versets de l'évangile de Jean, chapitre 7. Après l'événement qui a eu lieu à Bethesda, Jésus n'avait donc pas l'esprit tranquille. Mais il y avait cette fête juive, cette grande fête juive proche. Et comme je vous l'ai dit, comment Jésus ne pouvait pas s'y rendre quand lui-même est issu de ce peuple juif? Donc pour Jésus, ne pas se rendre à cette fête, c'est une faute. Il y a une pression sociale. D'accord ? Une pression sociale qui s'exerce. Et puis ensuite, il y a une autre pression qui s'exerce sur Jésus. Il y a la pression sociale de l'événement et il y a la pression que va exercer ses frères, qui l'incite à se rendre en Judée pour la célébration. Et cette pression des frères est aussi de l'inviter à se manifester auprès de tout le peuple et à déclarer qui il est. Sauf que les frères de Jésus, de vrais hypocrites, ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Ils l'envoient, mais ils ne croient pas en lui. Cette fête annuelle qui a lieu en Judée est ce que l'on appelle la fête des huttes, la fête des cabanes, le tabernacle. La fête des tentes est l'une des fêtes, il y a de nombreuses fêtes qui sont célébrées en Israël, et je vous en ai donné quelques-unes tout à l'heure, mais c'est une fête qui est prescrite dans la loi de Moïse. Et il fallait pour le peuple juif se remémorer l'assistance divine qui était reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode, mais également célébrer la fertilité de la terre. En fait, c'était deux événements que l'on célébrait, la sortie de l'Égypte, le fait que Dieu ait toujours été un abri pour son peuple, mais le fait aussi que Dieu rende le sol fertile. Et on va voir l'importance des détails, l'extrême importance des détails qui vont être commentés autour de cette fête qu'on appelle la fête des Soukhotes. Alors pour comprendre le sens de sa fête, je vais vous rappeler quelques versets dans Lévitique, chapitre 23, versets 34-36. Il est dit, parle aux enfants d'Israël et dit, c'est le moment où est instituée la fête des Soukhotes, la fête des huttes, la fête des tentes. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, écoutez bien le nombre de jours, pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc c'est le temps des sacrifices. Mais tout ça étant une préfiguration du sacrifice du souverain sacrificateur qui est Jésus. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et c'est le 8e jour, le dernier jour, le grand jour où Jésus va se révéler. Dans le fameux chapitre 7 de Jean. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Puis, toujours dans le Lévitique 23, au verset 41-43, nous allons comprendre le sens qui est donné à cette célébration. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est au verset 41 et 43 du Lévitique 23. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Perpétuelle. Vous la célébrerez le 7e mois, c'est-à-dire au mois de septembre-octobre. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes, tous les habitants d'Israël demeureront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans le Deutéronome, chapitre 16, du verset 13 au verset 15, « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. » Donc on voit bien les deux dimensions, à la fois la fête pour célébrer et se souvenir que l'Éternel m'a accompagné pendant la sortie de l'Égypte, mais aussi tu célébreras cette fête en mémoire que je suis l'Éternel Jireh, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui fait du bien et l'Éternel qui donne à ta terre d'être arrosée. Amen. Cette fête a quelque chose de solennel, mais ce n'est pas un rituel. Il y a là une dimension spirituelle qui n'a pas été comprise par le peuple juif, mais que nous comprenons et que nous allons saisir et encore mieux comprendre. La fête des tabernacles célèbre la marche à travers le désert. Les juifs commémorent le passage du peuple juif dans le désert. Les juifs magnifient la protection de l'Éternel. Et cette fête, elle est caractérisée par la construction des huttes de branchages de quatre espèces. C'est dans le Lévitique 23-40 qui nous est donné comment les huttes sont construites. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres. C'est magnifique, du fruit des beaux arbres. Des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. C'est pas une fête de tristesse, c'est plein de joie et de réjouissance. C'est une liesse, c'est une liesse. La hutte symbolisait la présence de Dieu parmi le peuple. Les termes hébreux pour le désigner sont miskam, c'est-à-dire la demeure. Vous savez, on comprend mieux ce que veut dire donc la tente de la rencontre, la tente de la demeure, la tente d'assignation. Le tabernacle est le lieu où les Juifs rencontraient Dieu. Mais vous allez comprendre que c'est extraordinaire. Vous savez que Jésus nous dit « Quand deux ou trois se réunissent, je suis au milieu d'eux. » Les soukottes, qui sont des huttes, des petites huttes, dans lesquelles, en fait, il n'y a pas le rassemblement de 10 000 ou des milliers de personnes. Non, c'est 3 ou 4 personnes qui prennent le repas ensemble sous la hutte. 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom et je suis au milieu d'eux. Vous formez la soukotte de l'Éternel. Waouh ! Quand j'ai découvert ça, je me suis mis à pleurer ce matin comme un gosse. Les larmes venaient tout seules. Je saisissais et comprenais ce que j'avais déjà lu, 100 fois. Mais je réalisais que l'Éternel nous disait qu'au travers de ces fêtes, il y avait la manifestation de la protection divine sur nos propres maisons. Amen. Et lorsqu'on se rassemble pour prier, là où 2 ou 3, chaque matin, la présence de l'Éternel est là. La manifestation de l'Éternel. Souvenez-vous de ce message. Chaque fois que vous allez vous rassembler, que vous vous rencontrez, c'est l'Éternel qui est là au milieu de vous. Quand vous vous rencontrez en son nom. Amen. Waouh, c'est édifiant. On n'est pas au bout de nos surprises. La préfiguration de la présence de Dieu au milieu de ses rachetés, comme celui qui habite au milieu de nous. Quand les Juifs entraient dans le tabernacle, c'était comme pour s'approcher de Dieu. Les fêtes de tabernacle sont l'occasion d'immenses rassemblements, mais en même temps, le Seigneur est à l'échelle de chacun. Parce que sur les maisons de Jérusalem, ou sur les il y avait sur les toits les fameuses huttes. Eh oui, pour que chacun se souvienne au moment qu'il prend son repas de magnifier et de louer et d'adorer et d'offrir un sacrifice. Nous, notre sacrifice, c'est le sacrifice de louange que nous offrons à Dieu. Ce que nous avons fait ce matin, c'est une mini soukotte. Amen. Nous nous sommes rassemblés pour célébrer l'Éternel, pour le magnifier. Je pensais à ceci, qu'au fond, Avoir un chez-soi, c'est une banalité de nos jours, n'est-ce pas ? À l'exception de ces hommes et de ces femmes qui sont privés de domicile, y compris parfois au milieu de nous. Le livre d'Exode nous rapporte que des centaines de milliers de personnes en quittant l'Égypte ont erré dans le désert pendant près de 40 années. Des centaines de milliers de personnes n'avaient pas de domicile fixe. Pendant 40 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pas avoir de toit, pas avoir de maison, mais ils devaient traverser un immense désert. Et pendant près d'une génération, ils n'ont pas eu d'endroit pour se poser, pour s'installer et bâtir une maison. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Vous comprenez pourquoi Dieu a institué cette fête des Soukkot ? Car jamais ils n'avaient rien, ils n'ont rien manqué. Ils n'ont pas manqué de nourriture, le Seigneur avait pourvu à leur nourriture au quotidien, la manne, les cailles, quand ils ont été las de manger quotidiennement de la manne. Mais le Seigneur était la nuée, le jour, pour que le soleil ne vienne pas taper. Et la nuit, il y avait cette colonne de feu pour réchauffer les cœurs. Le Seigneur était constamment là et les Soukkot étaient là pour rappeler et magnifier la présence du Seigneur au quotidien. Au quotidien. Dieu a été leur abri. Il a constamment pris soin. Une nuée couvrait le peuple. Et la présence de Dieu était manifeste chaque jour. En fait, la fête des Soukkot a donc pour objet de marquer le peuple dans toute cette dimension protectrice de Dieu manifestée pour Israël au cours de son séjour dans le désert. Dieu a ainsi pourvu. Dieu les a guidés, les a délivrés de l'esclavage et les a conduits vers la promesse d'habiter le pays de Canaan. La fête des Soukkot, selon la tradition inscrite dans le Lévitique, durait 8 jours. Le 8e jour, il y avait une assemblée solennelle. Et là, un prêtre, écoutez bien, c'est important dans les détails, puisait à l'époque de Jésus, puiser de l'eau dans la piscine de Siloé, qu'on ramenait au temple et qu'on versait en guise d'offrande sur l'autel, tout en lisant Ésaïe 12, versets 2 à 3, chapitre 12, versets 2 à 3. Écoutez bien, Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel. Faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Chaque fois que nous réunissons, nous sommes appelés à célébrer celui qui est la source de la vie et qui nous a promis de faire couler en nous des quantités d'eau, une eau vive, l'eau de son esprit en nous, la vie en nous. Le dernier jour de Soukkot représente le terme ultime de la fête. Et dans la tradition, les Juifs demandent à Dieu d'être sauvés de l'exil et de tous les maux, au nom de toutes les délivrances déjà opérées dans l'histoire d'Israël. Et lors de cette journée ultime, le nom divin ne sera plus jamais profané. Le dernier jour, le grand jour, Jésus se leva. Jésus se leva. Il regarda l'assistance. Il nous regarde là maintenant, il est au milieu de nous et il déclare le dernier jour, le grand jour. Jésus fit cette proclamation, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui comme l'a dit l'Écriture. Jésus est le tabernacle Jésus est le tabernacle vivant, le véritable temple de Dieu. Le Seigneur, ce matin, veut nous toucher, veut nous restaurer, veut nous guérir, veut nous dire que plus jamais, plus jamais, plus jamais, tu n'auras soif. Il est celui qui est la vie et qui est venu pour toi te donner et t'offrir la vie éternelle si tu crois de tout ton cœur en lui. Si tu le reçois ce matin de tout ton cœur, de toute ton âme, il restaure ton âme et ton cœur. Et pour nous, nous rassembler, vous vous en souviendrez, quand vous vous rassemblez, deux ou trois, nous n'étions que quatre, je crois, ce vendredi soir, pour adorer Dieu et louer Dieu. Mais peu importe le nombre, à chaque fois que nous nous retrouvons pour louer l'Éternel, il est au milieu de nous. Et nous formons la soukotte de l'Éternel, l'habitation de l'Éternel, l'habitation là où Dieu réside. Et là où nous demeurons, il demeure. Quand nous l'appelons, quand nous voulons le célébrer et lui offrir des sacrifices de louange, parce que nous n'avons plus rien d'autre à lui offrir que des sacrifices de louange, tant son sacrifice à lui a été extraordinaire pour nous. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Je veux te dire ce matin, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a plus de condamnation sur ton frère et sur ta sœur. Parce que l'Éternel l'a racheté. Parce que l'Éternel l'a sauvé. Il n'y a plus de condamnation sur aucun d'entre nous. Ce que je veux te dire ce matin, je te le dis de la part du Seigneur. Si tu as fait la paix avec lui, et si tu es résolu à ne plus pécher, il n'y a plus de condamnation sur toi. L'Éternel t'a racheté. Et l'Éternel veut que tu ailles le rencontrer dans cette tente d'assignation afin de l'adorer. Et cette tente d'assignation, c'est le temple que tu formes parce que tu as accueilli le Saint-Esprit. Amen. Alors ce que je vous propose, c'est ce que le Saint-Esprit m'avait dit ce matin, alors je vais faire ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est de vous rassembler par petits groupes, quatre ou cinq, ou trois ou quatre. Vous allez former une soukotte et vous allez adorer l'Éternel, vous allez le remercier pour ce que nous avons vécu ensemble. Amen. Et de saisir l'Esprit et la grâce de Dieu. C'est une manière de convoquer, en quelque sorte, sans qu'il en ait besoin, parce qu'il nous a précédés et qu'il est là et qu'il attendait ce moment de nous pour que nous nous rassemblions et que nous ayons un moment de communion forte, de communion magnifique avec lui. Amen. Alors je vous invite à vous retrouver trois ou quatre. Amen. Trois ou quatre. Et former, je dirais, l'habitation de Dieu, comme cela est dit dans Pierre. Former une habitation, une sainte habitation avec Dieu. Amen. Alors on se retrouve là ensemble et on va prier l'Éternel. Amen. Et le remercier et magnifier sa présence au milieu de nous. Amen. Je pensais aussi que dans la soukotte, on partage le pain de vie, la nourriture divine, la nourriture de Dieu. Amen. Eh bien, que ce soit une nourriture que nous prenons. Parce que l'Esprit Saint qui vient consoler vient aussi, en quelque sorte, apporter la parole en nous, qui est une véritable nourriture. Amen.